Française, français.
Et les autres aussi, bonjour.
Le général de Gaulle est mort.
C'est pas la gauche, la France.
La France est veuve.
C'est pas la droite, la France. La France, c'est tout à la fois. C'est tous les Français.
En 1944, nous a conduit à la libération. Il a donné à la France actuelle ses institutions.
Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur ?
Et que, dans l'âme nationale, De Gaulle vive éternellement.
Vous êtes à l'écoute de De Gaulle 2020, l'émission qui nous replonge dans les méandres de la personnalité complexe et tourmentée du général De Gaulle, de son histoire singulière qui est aussi la nôtre puisque De Gaulle prétendait être la France, prétention dont au fond nous avons avec le recul de l'histoire accepté l'augure. Tout le monde est, a été ou sera gaulliste, disait-on, de son vivant aujourd'hui. Tout le monde, toutes les forces politiques du moins, s'inclinent devant sa statue. Mais qu'est-ce qui, en 2020, peut nous relier encore au général 50 ans après sa mort. C'est ce que nous explorons chaque dimanche de l'été.
De Gaulle 2020.
C'est lui qui a dit tout le monde est, a été ou sera gaulliste, n'est-ce pas ?
Thomas Legrand, sur France Inter.
C'est donc du chef de l'État, élu par un collège électoral qui englobe le Parlement, mais qui le dépasse largement de manière à en faire le président de l'Union française en même temps que celui de la République. C'est du chef de l'État que doit procéder le pouvoir exécutif.
Le discours de Bayeux, l'extrait que l'on vient d'entendre, prononcé par le général de Gaulle en juin 1946, c'est-à-dire 6 mois après avoir quitté le pouvoir, dit ce que, selon lui, devraient être les institutions de la France. On sait à partir de Bayeux que De Gaulle en a une idée très précise et donc qu'il se place presque officiellement comme un recours politique. D'ailleurs, quand en 1958 il revient au pouvoir et qu'il décide de proposer aux Français une 5e République, eh bien, il dit aux quelques jeunes juristes réunis autour de Michel Debré pour fabriquer ces nouvelles règles du jeu de notre démocratie, il leur dit de s'inspirer du discours de Bayeux. Tout y est, suprématie de l'exécutif sur le législatif en tête, bien sûr. La 5e République est aujourd'hui la constitution qui aura tenu le plus longtemps depuis la Révolution. Nous allons voir avec Anne Levade, professeure de droit constitutionnel à l'Université de Paris 1, que pour durer, eh bien la 5e a évolué et nous allons nous poser la question de sa pertinence aujourd'hui parce que De Gaulle, et c'est la raison pour laquelle il est à ce point important dans notre histoire contemporaine, De Gaulle n'a pas simplement sauvé la France deux fois, il lui a donné les institutions avec lesquelles nous vivons toujours. Nous avons rencontré Anne Levade à la Fondation De Gaulle, rue de Solferino à Paris, un hôtel particulier sans charme. C'était aussi le siège du RPF, premier parti gaulliste en 1947. De Gaulle y avait un bureau pendant toute la traversée du désert. Pas si désertique que cela, et il y a préparé son retour. Nous sommes installés dans la bibliothèque sous un grand portrait du général. Première question, quelle est l'originalité de ces institutions ?
Alors, je pense, rétrospectivement évidemment, que l'originalité de cette constitution, c'est qu'elle a à la fois été élaborée dans des circonstances très particulières. C'est un texte qui est rédigé extrêmement rapidement. C'est la première fois qu'on arrive en 3 mois à rédiger intégralement un texte constitutionnel.
Il n'y a pas de constituante.
Et il n'y a pas de constituante. C'est pas une élaboration par des représentants élus du peuple. On va très vite. Et paradoxalement, la deuxième caractéristique, c'est que c'est une constitution qui tient dans la durée. Parce que quand on rédige un peu dans l'urgence, ou qu'en tout cas on a le sentiment qu'un texte est rédigé dans l'urgence, on peut craindre que très rapidement il se périme et qu'il ne fonctionne pas. Et finalement, c'est un texte qui, aujourd'hui, a une durée de vie très respectable à l'aune de ce qu'on a connu en France. Il n'y a qu'en France qu'on se pose la question d'une durée de validité, en quelque sorte, des constitutions. Parce que nous sommes les champions du monde du nombre de constitutions dans notre histoire. Nous adorons changer de constitution. Et donc, ce qui est très remarquable aussi, c'est que quand le général de Gaulle décide de changer de constitution, ça n'étonne personne en France. On en a plus de 10 derrière nous, déjà. Mais personne n'imaginait sans doute que ce texte durerait aussi longtemps et que donc, plus de 60 ans plus tard, il serait encore en vigueur.
Nous n'étions pas nombreux à préconiser le non
au référendum de 1946 sur une constitution qui portait en soi le désordre et l'impuissance.
Pierre Malès, France, le 26 septembre 1958.
La majorité a voté oui. À cette époque, comme nous, le général de Gaulle recommandait le non et certains nous reprochaient, comme il disait, de voter avec les fascistes. Aujourd'hui, d'autres nous reprochent de voter avec les communistes. Eh bien, nous avions raison en 1946 de voter non, sans nous soucier d'autre chose, parce que c'était mauvais pour le pays, et nous avons raison aujourd'hui, parce que, de nouveau, c'est mauvais pour le pays.
Pierre Malès, France, opposant rigoureux du général de Gaulle, républicain parlementariste, refuse cette constitution dont il perçoit déjà le danger personnaliste. Il s'opposera avec la même vigueur, 4 ans plus tard, à l'instauration de l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Là encore, Malès, France avait perçu le travers plébiscitaire et infantilisant et le penchant monarchie républicaine de la 5e République. Mais revenons en 1958. De Gaulle a des idées très précises de ce que doivent être les institutions de la France.
Je crois d'abord que, bien sûr, il y a les idées constitutionnelles du général de Gaulle. Il les énonce à Bayeux. Il a un certain nombre, j'allais dire, d'obsessions sur l'exercice du pouvoir et on les retrouve dans le texte. Mais il y a beaucoup de choses qui, de mon point de vue, ne sont pas directement issues des réflexions du général de Gaulle. Notamment, c'est un texte constitutionnel qui est très ciselé sur le plan juridique. Cette idée de juriste, de distinguer et d'enfermer le Parlement dans une série de domaines de compétences et de laisser l'exécutif, donc le gouvernement, adopter les actes dans les autres matières.
Alors ça, là c'est très important parce qu'on n'en parle pas souvent,
oui.
Mais c'est la seule constitution d'un pays démocratique, ou une des rares, je pense que c'est la seule, où le domaine de la loi est défini par la constitution. Alors que d'habitude le domaine de la loi est infini, et c'est le domaine du décret qui est défini. Là, c'est l'inverse, c'est l'article 34.
Oui, c'est les articles 34 c'est quand même, et 37.
C'est une des choses qui a fait dire, par exemple, à Pierre Mendès France, qui était un parlementariste, que c'était une constitution abusive.
Je pense que la conviction qu'a de Gaulle, parce qu'il l'a vécu de l'extérieur puis de l'intérieur au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, c'est que l'un des éléments perturbateurs du jeu institutionnel et politique, c'est le Parlement. Quand il arrive au pouvoir en 58, on sort d'une 4e République qui a duré 12 ans et pendant laquelle il y a eu 25 gouvernements. Ce qu'il faut éviter à tout prix, d'après lui, c'est cette toute-puissance parlementaire. Donc, au titre des idées gaulliennes, il y a la volonté d'encadrer le Parlement. Comment ? Eh ben, c'est les juristes qui vont en quelque sorte imaginer des dispositifs. Et le meilleur moyen pour encadrer le Parlement en 1958, c'est de l'empêcher d'être omnicompétent, c'est-à-dire de pouvoir légiférer sur tous les sujets qu'il veut. On parle à l'époque d'une révolution juridique. Cette idée d'établir une liste limitative de domaines dans lesquels le législateur intervient, et même de dire qu'il y a certains cas dans lesquels il se contente de fixer les principes, donc les lignes très générales, et que dans d'autres, il détermine les règles, eh bien, ça va immédiatement encadrer les pouvoirs du Parlement, et puis surtout, il est écrit dans la Constitution que tout ce qui n'est pas du domaine du législateur, donc les matières dans lesquelles il n'a pas à intervenir, sont du domaine réglementaire. Donc c'est le gouvernement qui directement décidera. C'est ce qu'on a appelé à l'époque les règlements autonomes, parce que ce sont des actes qui vivent leur vie indépendamment de toute loi.
Mais vous voyez bien, tout à l'heure vous disiez la France est le seul pays où on se pose la question de la durée de la Constitution. Mais là, si on se la pose aussi, c'est parce que justement, il y a un domaine de la loi qui a été fixé en 58. Et puis depuis, le monde a évolué, le monde s'est complexifié. Le travail du législateur, le travail en tout cas de celui qui édicte les règles, est devenu très compliqué. Donc le domaine général, qui est le domaine du décret, du règlement, de l'exécutif, a pris une part énorme. Et le déséquilibre, finalement, est-ce qu'il ne s'est pas renforcé avec le temps et la complexification de la vie politique et économique?
Alors, je crois pas, d'abord parce que dans la pratique, cette révolution juridique, elle n'a jamais été pleine et entière. C'était plutôt une arme de dissuasion aux mains de l'exécutif, parce que le gouvernement peut dire au Parlement, vous n'avez pas à vous occuper de ça, ça n'est pas de votre domaine. Mais dans la pratique politique et institutionnelle, on s'aperçoit que le gouvernement l'a très peu fait. Parce que, et ça c'est le fait majoritaire, le gouvernement il a une majorité à la Chambre, et que de fait la majorité à la Chambre fait plutôt ce que le gouvernement souhaite. Donc le jeu politique vient rééquilibrer la rigidité, j'allais dire, apparente de la règle juridique. Deuxième élément, à partir du milieu des années 90, puisque nous adorons adopter de nouvelles constitutions, mais nous aimons presque autant réviser celles que nous avons, l'obsession à chaque fois que l'on envisage de réviser la Constitution, c'est de, alors les mots ont varié, revaloriser, restaurer, renforcer le Parlement. Et donc, on a, sans toucher à ce domaine de la loi, puisque le principe reste inscrit dans notre Constitution, on a fait évoluer les choses, c'est-à-dire que par exemple, on a à nouveau permis depuis 2008 aux parlementaires d'adopter ce qu'on appelle des résolutions, c'est-à-dire de prendre des positions politiques sur des sujets. Ils n'avaient plus le droit de le faire entre 1958 et 2008. On considérait que c'était une marque de défiance à l'égard de l'exécutif. On a étendu leur pouvoir de contrôle. Les commissions d'enquête, qui existent depuis toujours, dont on parle un peu plus ces dernières années, sont un véritable instrument de contrôle parlementaire. L'un des moyens imaginés en 58 pour encadrer le Parlement était aussi de jouer sur le temps. Donc on avait inventé ce système de deux sessions parlementaires. On avait une session d'automne, qui était la première, totalement consacrée au budget. Les parlementaires se réunissaient 3 mois, et puis ils partaient.
Oui, il y avait des périodes sans Parlement.
Voilà. Et ils revenaient en avril jusqu'à fin juin. Donc, dans l'intervalle, le gouvernement était tranquille, puisqu'il n'y avait pas de session. Et donc, en 1995, c'était une petite révolution, on a décidé qu'il y aurait une seule session parlementaire, et que donc, même si le vote du budget est un gros morceau de l'automne au Parlement, les parlementaires commenceraient en octobre et termineraient leurs travaux au mois de juin.
Ce qui est important parce que ça fait une vie parlementaire continue avec tous les mercredis, et maintenant tous les mardis et les mercredis,
les questions qui sont
médiatisées.
Parce que parce que quand les parlementaires ne siègent pas, bah, par définition, ils ne sont pas dans l'hémicycle, ils ne sont pas dans les commissions, et donc institutionnellement, ils ne peuvent pas agir.
Au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Printemps, au printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Printemps, pour une fleur, un sourire, un serment, pour l'ombre d'un regard en riant, toutes les filles vous donneront leurs baisers, puis tous leurs espoirs. Vois tous ces cœurs comme des artichauts qui s'effeuillent en battant pour s'offrir au badaud. Vois tous ces cœurs comme de gentils mégots qui s'enflamment en riant pour les filles du métro. Au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Au printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Printemps, pour une fleur, un sourire, un serment, pour l'ombre d'un regard en riant, tout Paris se changera en baiser, parfois même en grand soir. Vois tout Paris se change en pâturage pour troupeaux d'amoureux, aux bergères peu sages. Vois tout Paris joue la fête au village pour bénir au soleil ces nouveaux mariages. Au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Au printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Au printemps, pour une fleur, un sourire, un serment, pour l'ombre d'un regard en riant, toute la terre se changera en baisers qui parleront d'espoir. Vois ce miracle, car c'est bien le dernier qui s'offre encore à nous sans avoir à l'appeler. Vois ce miracle qui devait arriver, c'est la première chance, la seule de l'année. Au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Au printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Au printemps, au printemps, au printemps.
Jacques Brel sur France Inter, Au printemps, c'est une chanson enregistrée en 1958.
De Gaulle, 2020. Thomas Legrand sur France Inter.
Le Parlement a voté ce matin à Versailles une réforme constitutionnelle. Quel en est l'objet ? C'est de permettre à un certain nombre de parlementaires, députés et sénateurs de demander au Conseil constitutionnel de vérifier si une loi est bien conforme à la Constitution. La preuve que le problème se pose, c'est que dès à présent, dans notre Constitution, le président de la République, le Premier ministre et les présidents des deux assemblées pouvaient saisir le Conseil constitutionnel. Mais vous voyez que la minorité des parlementaires ne pouvait pas le faire. Désormais, à la suite du vote de ce texte, 60 députés ou sénateurs pourront poser la question de savoir si une loi votée est bien conforme à la Constitution et notamment si cette loi respecte bien certaines dispositions constitutionnelles qui protègent les libertés et notamment les libertés publiques.
Vous avez reconnu Valéry Giscard d'Estaing sur la RTF en octobre 1974 qui explique toujours très pédagogue et vulgarisateur la réforme des institutions dont il est à l'origine et c'est une vraie avancée démocratique que nous décortiquons toujours avec Anne Levade jusqu'à 14h, professeur de droit constitutionnel à Paris 1. Alors écoutez bien, si vous avez passé le bac, enfin si vous l'avez eu parce que cette année personne ne l'a passé, ou si vous vous apprêtez à faire une fac de droit, parce que ce que nous allons détailler maintenant, c'est au programme de la première année. Mais bon, ça intéresse tout le monde.
En 1974, donc, au titre des propositions de réforme, on va dire, de rénovation, puisque Valéry Giscard d'Estaing est un président jeune qui veut voilà moderniser le texte, il propose que soit introduit dans la Constitution la possibilité pour 60 députés ou 60 sénateurs, donc une minorité de députés ou de sénateurs, de saisir le Conseil constitutionnel. Juste quand même pour que les choses soient claires, 60 c'est aujourd'hui un peu plus à peine de 10% des 577 députés et 60 c'est à peu près 20% des 348 sénateurs. Mais quoi qu'il arrive, ça veut dire que l'opposition, donc les partis d'opposition, ont d'un seul coup un droit de s'opposer sur un fondement juridique. C'est-à-dire, il s'agit pas de saisir le Conseil pour dire cette loi est nulle, nous sommes contre parce que on voulait l'inverse politiquement, mais sur la base d'arguments juridiques, de contester une loi qui a été votée par la majorité. Et donc ça va produire assez rapidement un effet numérique, c'est que vont se multiplier les saisines, que ces saisines vont, selon les chambres d'ailleurs, avoir des tonalités un peu différentes, parce que le Sénat a une tradition, d'ailleurs il s'en réclame régulièrement, de garant des droits et libertés, parce que à l'Assemblée c'est souvent une opposition plus frontalement politique. Et ça va donner aussi au Conseil constitutionnel l'occasion de prouver sa légitimité juridique. Je prends un exemple que moi j'ai toujours trouvé très frappant. En 1982, le Conseil constitutionnel est saisi de la loi de nationalisation. En 1986, il est saisi de la loi sur les privatisations. Donc deux textes qui disent rigoureusement l'inverse. Eh bien, il est saisi évidemment à chaque fois par l'opposition. Dans les deux cas, il a exactement le même raisonnement. C'est-à-dire, il se fonde sur les mêmes principes, le droit de propriété, la liberté d'entreprendre. Il nous dit pas s'il trouve que les nationalisations c'est bien ou pas bien, s'il préfère les privatisations. Et il rend sa décision. Elles sont presque symétriques l'une de l'autre parce que, en conclusion, il nous dit il y a ponctuellement des problèmes parce que ces deux textes, chacun dans leur registre, violent d'une manière ou d'une autre les mêmes droits et libertés.
L'exemple que vous venez de nous donner prouve que la critique que les gaullistes faisaient à l'époque en disant ça va faire le gouvernement des juges n'est pas vrai, puisque finalement non, ils ne choisissent pas sur le fond, ils déterminent simplement en droit, ils restent dans leur domaine.
Oui, ils sont véritablement des juges.
Ou ça peut être douteux.
C'est très compliqué parce qu'il faudrait reprendre les décisions une par une. J'en ai pas une comme ça qui me vient à l'esprit spontanément.
Enfin, en tout cas, cette critique n'existe plus.
Donc, alors, elle n'existe plus parce que derrière la formule gouvernement des juges, il y a une grosse part de fantasme. Et puis c'est une critique qu'on oppose en fait presque systématiquement chaque fois qu'une décision de justice déplaît au pouvoir. On a pu parler de gouvernement des juges dans un autre registre à l'égard de la Cour européenne des droits de l'homme, lorsqu'elle rend une décision dans laquelle elle dit que tel ou tel pays,
on pense aux États-Unis,
la France ou autre, voilà. Oui, parce que c'est là-bas qu'on a théorisé en quelque sorte cette lecture des choses autour du New Deal.
Nous sommes toujours avec Anne Levade, professeure de droit constitutionnel, qui nous explique maintenant ce qu'est la dernière des réformes institutionnelles importantes, la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité.
Alors, la dernière réforme, la plus spectaculaire et qui a donné une popularité réelle, me semble-t-il, au Conseil constitutionnel, c'est évidemment la réforme qui a permis à un justiciable, en cours de procédure, de saisir, moyennant des filtres, le Conseil constitutionnel, afin de faire intervenir une problématique de constitutionnalité dans son procès. Alors le mot prioritaire est un peu bizarre, il n'est pas dans la Constitution, d'ailleurs si certains ont la curiosité d'aller la lire en même temps qu'ils nous écoutent. L'idée de contrôle prioritaire, il vient de cette idée que pour que cette réforme soit efficace, il fallait peut-être forcer un peu les juges du fond, sur le plan procédural, à la mettre en œuvre. Pourquoi ? Parce que les juges du fond, voir intervenir, donc le juge judiciaire ou le juge administratif, voir intervenir le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une procédure sur laquelle ils sont en train de statuer, légitimement, ils auraient pu trouver que c'était un peu désagréable ou encombrant. Et donc, le caractère prioritaire, c'est de dire que lorsqu'une question de constitutionnalité est posée devant un juge, il doit tout arrêter. Il sursoit à statuer.
Donc et sur une loi, en sur priorité, une loi ancienne, alors en fait.
Alors, en fait, un justiciable en cours de procédure se voit appliquer la loi.
Oui, ça peut être une très vieille loi.
Et donc, n'importe quelle disposition législative, n'importe quel article de loi, quelle que soit la date de la loi, mais évidemment une loi en vigueur, puisqu'on va l'appliquer au justiciable, peut être contesté par le justiciable qui demande à ce que le Conseil constitutionnel se prononce.
Alors, pour être clair,
sur sa constitutionnalité.
Jusqu'à la QPC, c'était les parlementaires qui disaient la loi que nous venons de voter,
mais qui n'est pas encore en vigueur,
n'est pas constitutionnelle, et ils demandaient donc au Conseil constitutionnel de trancher. Et là, maintenant, on peut un justiciable peut dire une vieille loi, celle qu'on est en train de m'opposer dans un procès, n'est pas constitutionnelle.
Alors, il y a des limites. Pas des limites temporelles. Mais l'idée n'est pas évidemment que tout le monde s'empare de cette procédure.
Alors donnez-nous un exemple.
Pour faire traîner les délais.
De QPC qui a abouti.
Ah ben des exemples de QPC qui ont abouti, il y en a aujourd'hui des centaines, puisqu'il y a plus de décisions rendues dans le cadre de cette nouvelle procédure depuis 2008 qu'il n'y en a rendues dans le cadre de l'ancienne procédure entre 1959 et aujourd'hui. Donc c'est vous dire si c'est un...
Les sages travaillent beaucoup maintenant.
Un succès, voilà. Je vous rassure, on est en deçà de 1000 des deux côtés, mais c'est quand même un nombre très significatif. Après, il y a des textes qui ont donné lieu, en pour ou en contre d'ailleurs, à des réactions. Je pense par exemple quand le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la disposition législative qui prévoyait le harcèlement sexuel au motif que... Au regard du droit pénal, l'infraction n'était pas définie de manière suffisamment précise et que donc ça violait la Constitution sur la base du principe de l'égalité des peines. Il y a eu un certain nombre de QPC qui ont été rendus en lien ou en articulation avec des questions de droit européen qui donc ont amené... Le Conseil ne statue pas sur la base du droit européen, mais qui ont amené le Conseil constitutionnel à dialoguer avec la Cour de justice de l'Union européenne parce qu'il avait besoin d'un regard européen pour statuer sur la disposition qui lui était soumise. Il y a aussi des dispositions très techniques, à caractère fiscal notamment, parfois très anciennes, qui ont été déclarées contraires à la Constitution. Donc aujourd'hui, cette QPC... elle est devenue un mode normal de garantie des droits des particuliers.
Française, français.
Allocution télévisée du général de Gaulle le 4 octobre 1962.
Le projet que je vous soumets propose que le président de la République, votre président, soit élu dorénavant par vous-même. Rien n'est plus républicain. Rien n'est plus démocratique, j'ajoute que rien n'est plus français, tant cela est clair, simple et droit. Une fois de plus, le peuple français va donc faire usage du référendum. Une fois de plus, le résultat sera la décision de la nation sur un sujet essentiel. Ce sont donc vos réponses qui me diront le 28 octobre si je peux et si je dois poursuivre ma tâche au service de la France.
Vive la République ! Vive la France !
Et je voulais revenir à une évolution très importante, due au général de Gaulle. En 1962, le mode d'élection du président de la République au suffrage universel. Alors ça, c'est intéressant parce que quand il l'a instauré, tout le monde était contre. Le Conseil d'État, même le Conseil constitutionnel, qui n'avait pas à se prononcer, mais enfin, tout le monde était contre et il a réussi à l'imposer. Et maintenant, c'est la clé de voûte des institutions.
Alors, je crois que de Gaulle avait envie que le président de la République soit élu au suffrage universel direct depuis toujours.
Il n'a pas osé l'imposer en 58.
Sans doute les esprits n'étaient pas mûrs. Alors, ils n'étaient pas mûrs aussi parce qu'on avait eu une expérience un peu douloureuse de l'élection du président au suffrage universel direct auparavant. C'est Louis-Napoléon Bonaparte, 1848. Et ensuite, en 1852, ça se transforme en Second Empire. Donc, ce qui est admis comme compromis en 58, c'est que ce ne seront plus les parlementaires qui éliront le président de la République. Ça, déjà, les parlementaires ont mal vécu ce premier traumatisme. Mais évidemment, c'était dans la logique gaullienne. Mais on ne pouvait pas franchir le pas jusqu'à donner au peuple directement
cette compétence. Donc il y avait un collège
élargi autour de 80 000
des élus locaux,
en fait l'équivalent du collège qui élit les sénateurs aujourd'hui. Et donc les parlementaires y étaient, mais noyés dans la masse, 800 sur 80 000. En 1962, on le sait, de Gaulle prend argument de l'attentat du petit Clamart pour provoquer ça, puisque le message qu'il fait passer, c'est les prochains présidents de la République, ils n'hésitent jamais dans les formules, n'auront sans doute pas la légitimité qui est la mienne.
Sauvé la France deux fois, c'est l'histoire qui m'a choisi.
Exactement, il a pas complètement tort en l'espèce. Donc il faut pouvoir leur conférer une légitimité supplémentaire, et le bon moyen de le faire, c'est une élection directe. Alors évidemment, y a panique à bord, parce que les partis politiques voient le risque que tout cela leur échappe, les parlementaires sont, si c'est possible, encore plus fous furieux, puisque déjà depuis 4 ans, on les contraint, mais là on leur explique qu'on va les déposséder, même s'ils n'en avaient plus une large parcelle, d'un quelconque pouvoir à cet égard. Et puis il y a cette crainte, ce fantasme, très français en fait, peuple. Alors du peuple et du pouvoir personnel qui peut dérouler ou découler de cette désignation directe. Une des raisons pour lesquelles en France on a ce souci des constitutions, une des raisons pour lesquelles on est aussi un pays très politique, même si périodiquement on dit que on déteste la politique, on est très fondamentalement politique, c'est aussi qu'on a toujours une tension, qu'on voit d'ailleurs dans les premiers textes après la Révolution française, entre la souveraineté du peuple et la démocratie représentative, donc le pouvoir des assemblées. Et donc finalement, de Gaulle est dans une démarche, alors je vais pas utiliser le terme populiste parce qu'aujourd'hui il est... Mais en tout cas de rendre au peuple quelque chose, c'est pour ça qu'il contraint davantage les parlementaires, version 58, et puis en 62, finalement, il leur donne ce pouvoir de désigner ce qui, de son point de vue, est l'institution majeure du schéma institutionnel de la Ve
République. Et depuis, ça rythme la vie politique française.
Alors j'observe, et c'est amusant, que périodiquement, certains disent « si on voulait que ça aille mieux », donc dans la série « Comment réformer nos institutions », il faudrait supprimer l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Parce que beaucoup disent, le problème, c'est le poids totalement disproportionné de cette institution dans le jeu. Sauf que quand on regarde les projets de réforme constitutionnelle, je pense par exemple au moment de l'élection présidentielle de 2007, à peu près tout le monde rédige un projet. Alors évidemment, c'est des candidats présidentiels.
Mais personne ne propose de supprimer l'élection présidentielle. Oui.
Et c'est très amusant. C'est-à-dire que même des projets très...
Sauf ceux qui proposent, comme Jean-Luc Mélenchon, de la 6e République.
Oui, voilà, là c'est vraiment un schéma
différent. Mais ceux qui veulent réformer nos institutions ne proposent pas...
Ben oui, à l'époque, si on prend par exemple les projets pour une 6e République type Montebourg ou même Bayrou, qui rédigent des textes assez complets, on voit que reste l'élection au suffrage universel direct, l'article 5 de la Constitution, qui est l'article qui dit que le président est l'arbitre, le garant et le gardien, donc celui qui confère au président cette position particulière, et l'article 16, ce fameux article qui lui permet de prendre les pleins pouvoirs. C'est les trois qui font l'architecture.
Je crois malgré tout que nous devons donner plus de place à la voie référendaire dans notre démocratie. Et ce que je souhaite, c'est que dans le cadre de notre réforme constitutionnelle, nous puissions aller plus loin sur le référendum d'initiative partagée qui a été créé il y a maintenant 11 ans dans notre Constitution, en simplifiant les règles, en permettant que l'initiative puisse venir de citoyens, 1 million de citoyens qui signeraient une pétition et qu'elle puisse prospérer en projet de loi, et si elle n'était pas examinée par les assemblées, aller au référendum. Je crois que c'est une bonne voie qui respecte la démocratie représentative, mais qui permet à 1 million de citoyens qui se rassemblent de pousser le Parlement à discuter d'un texte ou bien d'aller au référendum.
Voilà, vous avez reconnu Emmanuel Macron, c'était le 25 avril 2019. Il évoquait une réforme constitutionnelle qui n'aura finalement pas lieu. Le Sénat n'est pas d'accord. Et puis maintenant, on est en 2020 et on n'aura plus le temps. Mais Emmanuel Macron, comme tous les présidents, cherche à faire respirer la Ve République et à résoudre cette crise de la représentation. C'était une tentative avortée.
Les constitutions, c'est absolument fondamental dans la stabilité institutionnelle et politique des États, mais ça n'est que du droit. C'est Guy Carcassonne, mon ami regretté, qui disait « Une mauvaise constitution peut faire le malheur d'un pays, une bonne constitution ne suffit pas à faire son bonheur. » Parce que ça n'est que de la règle juridique, et que imaginer qu'on pourrait résoudre définitivement la crise de la représentation que l'on connaît, mais que connaissent de nombreuses démocraties, c'est-à-dire cette contestation de non seulement l'aptitude à représenter qu'auraient les parlementaires, mais même le principe même de la représentation. Les Gilets jaunes disaient, d'ailleurs même entre eux, personne n'a cette possibilité, n'a ce titre à parler en mon nom. Donc, imaginez qu'on puisse, par une simple réécriture d'articles constitutionnels, résoudre ce problème qui est éminemment politique et j'allais dire presque de philosophie politique, me semble impossible.
Alors c'est vrai que c'est de la philosophie politique. Est-ce que vous pensez que les constitutions finalement doivent être à l'image du caractère des peuples, donc chez nous un peu éruptif, un peu révolutionnaire, on aime le combat et la politique, donc nos institutions organisent l'affrontement avec le fait majoritaire et ne permettent pas toujours le compromis, ou est-ce que les institutions doivent finalement contrebalancer certains défauts du caractère des peuples? Qu'est-ce que doit faire une constitution?
Moi, j'ai l'impression quand même que la Constitution de 58, elle a été conçue justement pour compenser les défauts du caractère du peuple et du jeu politique. Un constitutionnaliste de l'époque, qui s'appelait Marcel Prélot, disait « c'est une constitution orthopédique ». C'est-à-dire qu'elle a vraiment été conçue avec des béquilles, des cales, etc., de manière à jouer très exactement sur ce qui dysfonctionnait entre 46 et 58. Elle est venue pour compenser les défauts de la quatrième.
Et alors toutes les évolutions qu'on lui a... on règle ces béquilles.
Et ben voilà. En fait, c'est ça.
D'accord.
Et c'est-à-dire que, bah, forcément, si vous mettez une béquille et que vous passez 50 ans avec une béquille, vous allez avoir une déformation qui va... Au moment où on vous enlève la béquille, ça tient pas tout seul. Donc il faut avoir des petits réglages. Et je crois que c'est vraiment la force de cette constitution de 58. Alors après, il faut observer aussi que on n'a pas vécu des contextes politiques comparables à ceux qu'ont traversé la 3e ou la 4e République. La 3e République, on est très critique à son égard. Le texte constitutionnel est rédigé là pendant 5 ans. C'est extrêmement laborieux, les lois constitutionnelles de 1875.
Ah oui,
mais surtout, c'est quand même un texte où on a quand même la Première Guerre mondiale au milieu, le krach de 29. Enfin, je veux dire, on est quand même dans un schéma très particulier sur le plan du contexte.
Oui, c'est pas à cause de la Constitution de la Troisième République.
Bien sûr, pas à cause. Mais du coup, cette période laisse un très mauvais souvenir. Forcément.
Mais c'était une bonne constitution, la troisième. Enfin,
c'était un texte.
On a des souvenirs, en tout cas parlementaires. Voilà, ça a fait émerger des
grandes
Jaurès,
figures. En fait,
des,
c'est
des
le
Gambetta.
Jeu. Mais c'est le jeu politique qui était très différent, en fait, à l'époque. C'est-à-dire que à la grande époque, indépendamment même des personnalités elles-mêmes, à la grande époque de la Troisième République, on peut avoir des périodes pendant lesquelles on a. Je ne souhaite pas que ça se reproduise. Jusqu'à 16 groupes parlementaires à l'Assemblée.
Oui, on en est à 10 là.
On en est à 10.
Un record pour la cinquième.
I'm in.
Lee Fields and the Expressions, Thinking About You. On continue de se poser des tas de questions sur la Ve République. C'est un peu juridique, mais c'est important. Ce sont les règles du jeu de notre vie politique. On se pose toutes ces questions avec Anne Levade, constitutionnaliste à l'Université de Paris 1.
France Inter. De Gaulle 2020.
S'ils arrivent au moins à obtenir un référendum pour que la République garantisse l'environnement et la biodiversité, ce sera pour certains un énorme progrès. Les citoyens attendent des lois, des décrets. Héloïse est une lycéenne de 17 ans. Elle a décidé de s'investir au sein de l'association des 150 pour mettre la pression.
J'ai envie d'y croire, parce que j'ai envie de me dire que c'est pas fini et que dans tous les cas, le combat va continuer. Moi, j'habite à Dunkerque, donc sur le littoral, dans le nord, et ma ville, elle va disparaître. La convention, c'est le début. C'est le début d'une autre approche politique, c'est le début peut-être d'une remise en cause, de se dire mais il y a d'autres possibilités de faire parler les citoyens, il y a d'autres possibilités d'avoir un lien. Ça, je pense que c'est beau.
Est-ce que vous pensez que les initiatives comme la Convention citoyenne, qui réunit des citoyens tirés au sort pour réfléchir, là c'est sur la transition énergétique, peut aider nos parlementaires, la démocratie et la Ve République à se moderniser? Ou alors c'est un accroc à l'idée de représentation?
Alors, d'abord, j'observe qu'on a pu faire cette convention citoyenne sans avoir besoin de réviser la Constitution. Ce qui démontre bien que la Constitution, si elle impose certaines choses, il y en a beaucoup qu'elle n'interdit pas, et donc c'est quand même d'abord une affaire de volonté politique. La deuxième chose, c'est que aucun exercice démocratique, au sens débat contradictoire, n'est un accroc à la Constitution. En revanche, les choses sont un peu différentes si, par exemple, on explique que c'est la Convention citoyenne qui vote la loi. Parce que la Convention citoyenne, par définition, ça n'est pas le peuple dans son ensemble. Ce ne sont pas non plus des représentants au sens classique du terme, puisqu'ils n'ont pas été désignés avec un mandat d'eux. Ils ont été tirés au sort. Donc, la démocratie, c'est évidemment le débat, parce que c'est fondé sur le principe du pluralisme, et que la différence entre une démocratie et une dictature, c'est que justement, on peut avoir des idées divergentes, et que du débat doit naître un consensus. Mais la démocratie, c'est un mode de gouvernement. Et donc, pour gouverner, à certains moments, il faut décider. Donc, adopter, je dis volontairement le terme le plus neutre possible, adopter un texte, que ce soit une loi, un décret, un arrêté. Et au moment où on décide, c'est fini, il n'y a plus de débat. Et donc, c'est là qu'il y a une espèce de déséquilibre périodique dans la compréhension que l'on a de la notion de démocratie. La démocratie, ça n'est pas le débat permanent si le débat permanent n'aboutit jamais à aucune décision. Est une autre question, celle qui consiste à prévoir que les citoyens directement soient davantage associés à l'exercice du pouvoir. Et ça, il y a plein de voies et de mécanismes possibles et imaginables. Et puis peut-être aussi, ça dépend des sujets. Si vous prenez la crise sanitaire qu'on vient de traverser, on n'imagine pas complètement qu'on ait tiré au sort 150 personnes et qu'on leur dise chaque jour quel est votre avis sur la situation. On confine, on déconfine,
on ouvre. On imagine et on a imaginé qu'il fallait que ça soit finalement, on s'en est aperçu, plutôt les maires avec les préfets qui décident.
Parce qu'il y a une dimension d'appréciation des circonstances locales, ouais. Mais les maires et les préfets, c'est de la et les préfets,
représentative.
Et voilà. C'est-à-dire que c'est pas le citoyen lui-même
donc
qui directement
décide. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui comme ajustement pour reprendre votre métaphore de la béquille ou de l'appareil qui aide les membres un peu handicapés? Qu'est-ce qu'il faudrait revisser, dévisser la Constitution pour qu'elle soit plus adaptée à nos temps?
Moi, je pense que franchement, en l'état, on n'a pas vraiment besoin de béquille, de tournevis ou de rééquilibrage. Elle peut, sans être tordue, tenir encore un petit moment. En revanche, ce dont on a vraiment besoin, c'est de politique. Et quand je dis politique, c'est politique sans S et avec S. C'est-à-dire de gens qui, justement, ne laissent pas croire que c'est le droit qui va améliorer les choses. Je pense que la politique, c'est pas du droit.
La politique, ce n'est pas du droit. C'est une juriste qui nous dit ça. J'aime bien finir sur cette idée. Anne Levade, que nous avons rencontrée à la Fondation de Gaulle, était la garante de la bonne tenue de la primaire de la droite en 2016. Celle qui a vu la victoire de François Fillon. De Gaulle n'aurait pas aimé ça du tout, une primaire de parti, le jeu des partis. Mais enfin, il faut bien se choisir des leaders. Hein. Les De Gaulle, ça ne se trouve pas comme ça, sous le pas d'un cheval, surtout en temps de paix. Dimanche prochain, tout autre chose. Nous allons explorer une partie de l'antigaullisme avec Claude Claude Angéli, journaliste au Canard Enchaîné. Tous les épisodes de De Gaulle 2020 sont à retrouver sur podcast. Cette émission est réalisée par Claire Destacan, une prise de son de Yann Frécy, des archives dénichées par Karen Day et Claire Tesser, à la technique aujourd'hui, Johanna Gabric.
Française, français.
À dimanche prochain.
Vive la République! Vive la France!